Bon. Alors, les temps modernes. Alors, avec les temps modernes, on peut dire que tout va changer. Tout va changer. On va assister à l'apparition des sciences bibliques, en fait. Et pour commencer, un regain d'intérêt pour le sens littéral grâce au développement de la philologie au moment de la Renaissance. Et là, on va pratiquer presque la méthode husserlienne, la méthode phénoménologique. On va méthodologiquement faire abstraction de la foi et on va mettre en parenthèse le sens obvi pour étudier le texte comme texte. Et on aboutira à la méthode classique, des temps classiques, c'est-à-dire la méthode du soupçon, hein, chère à Descartes. Et il va falloir que le texte, en fait, se défende. Hein, c'est l'idée. Donc on va confronter le texte avec les sources extérieures. Or, justement, à partir de cette époque, on va commencer à avoir de plus en plus de moyens pour investiguer ces sources historiques, archéologiques. On va pouvoir, enfin, les Occidentaux vont pouvoir s'implanter de plus en plus dans l'Empire ottoman, mener des missions scientifiques, archéologiques. On va déchiffrer les langues jusque-là inconnues qui vont nous donner des textes sur l'histoire ancienne qu'on va pouvoir comparer avec l'histoire biblique.
C'est 19e, ça.
Oui, c'est ça. Déjà au 18e, un peu. Jusqu'au 18e, on a surtout les études philologiques. Et à partir du 19e, on a en plus le déchiffrement des langues anciennes et puis les campagnes archéologiques qui permettent de découvrir plein de documents. Donc, c'est surtout au 19e que les sciences historiques et puis aussi la réflexion sur les niveaux du langage va progresser. Et donc, le passage des textes bibliques au crible des sciences humaines va s'accélérer et à mesure justement que ces sciences se constituent, philosophie, psychologie, sociologie, psychanalyse, structuralisme, enfin bref, vous voyez, à chaque fois, vous risquez d'avoir une lecture qui part d'une de ces théories, et même marxisme, hein, on arrivera à des grilles d'interprétation marxiste des textes. Et ça continue aujourd'hui avec la non-discrimination en général, avec toutes les non-discriminations en particulier, féminisme, etc., etc., etc. Donc, parallèlement, le déchiffrement des langues orientales anciennes et l'engouement pour l'archéologie donc fournit beaucoup de documents historiques de comparaison. Et donc, c'est l'époque où on va surtout s'intéresser au sens littéral que par ailleurs on va déstabiliser. Les grands textes antiques, d'ailleurs, ne sont pas plus épargnés que la Bible. Certains diront par exemple que Homère n'a pas existé, d'autres diront qu'il n'a été que le compilateur de chants antérieurs, et donc il a compilé l'Iliade et l'Odyssée, etc., etc. Donc, voyez, après une longue période de naïveté précritique, on peut dire, il y a une réaction, on pourrait dire, hyper critique sur le texte. Alors, voyons un peu quels sont ces travaux de la critique biblique. Alors, la critique littéraire a permis de montrer, entre autres choses, et ça dès le XVIIe siècle, notamment avec un oratorien français, que, par exemple, l'épître aux Hébreux n'est pas de saint Paul, mais ça, on avait déjà des doutes depuis l'Antiquité, que plusieurs auteurs ou rédacteurs ont travaillé à la version définitive du Pentateuque, c'est-à-dire de la Torah, des cinq premiers livres de la Bible, que par exemple Moïse n'a pas vraiment décrit sa mort au chapitre 24 du Deutéronome, que par exemple le deuxième chapitre de la lettre de la deuxième lettre de Saint Pierre est en fait un double. Un décalque de la lettre de Saint Jude. Enfin, ça, il suffit de le lire hein, pour se rendre compte. Oui, à l'époque, on aurait dit, ah ben, ils ont écrit la même chose, c'est qu'ils ont été inspirés, hein, un peu comme les 72, là, les 70 de la Septante, de la légende de la Septante. Tandis que là, ben, on se dit, ben, il y a un des textes qui a circulé. Alors, soit on a un auteur comment dire, de l'époque du Nouveau Testament a fait circuler la lettre de Saint-Pierre, puis il a rajouté la lettre de Jude qui, dans une copie ultérieure, est passée pour le deuxième chapitre de la lettre de Saint-Pierre. Vous voyez, les choses se font assez aisément comme ça. Alors, le 19e siècle va voir se constituer deux grandes théories. Je regarde quand même l'heure. Deux grandes théories, l'une concernant l'Ancien Testament et l'autre concernant le Nouveau. Alors la première, qui est développée par un certain Wellhausen, c'est l'hypothèse dite documentaire, cherche à montrer, elle concerne l'Ancien Testament, et elle cherche à montrer que le Pentateuque, donc les cinq premiers livres de la Bible, le noyau de la Bible, en somme, hein, pour un juif, est une œuvre composite. Et on distinguerait un certain nombre de documents initiaux un certain nombre de critères, la manière dont on appelle Dieu, par exemple. Soit on utilise le mot Dieu classique du Proche-Orient au pluriel, Elohim, et on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de passages où Dieu est désigné comme ça. Il y a un certain nombre d'autres passages où il est désigné sous la forme qui apparaît dans l'Exode au buisson ardent, sous la forme de je suis. Et puis, à ces passages qui sont souvent juxtaposés, on découvre également qui comporte aussi des prescriptions légales et des choses comme ça, une sorte de synthèse qui résume un peu toute la loi avec une orientation d'ailleurs un peu, entre guillemets, de justice sociale, et qui serait, qu'on a appelé le document deutéronomiste. Alors, dans deutéronomiste, vous avez seconde loi, qui serait un document qui aurait repris les prescriptions de la loi, les actualisant pour une période donnée, qui, pour un certain nombre d'auteurs, est la période la fin du 7e siècle, l'époque de Josias, pour d'autres, qui est la période de l'exil. Et puis, il y a une quatrième série de textes avec un style particulier qu'on a appelé, dans cette hypothèse, le document P, qui est Priestertum. Le document dit sacerdotal, parce qu'il renferme les principales informations sur le culte du temple, et qui est considéré également comme un texte relativement tardif, sachant que l'unification du culte à Jérusalem est relativement tardive et que la splendeur de la liturgie du temple est donc juste dans les derniers siècles dans le dernier siècle de la monarchie, si tant est que ça a été réellement réalisé. Alors donc c'est la théorie dite des quatre sources, vous voyez, qui a beaucoup déchiré finalement les exégètes au 19e siècle. Et donc ça, comment, à partir finalement d'indices stylistiques dans. Alors, vous voyez, ce sont des hypothèses à chaque fois. Vous savez très bien que quelqu'un de doué peut écrire à la manière de et à la manière de. Hein. Donc,
Oui.
la même auteur peut faire de la poésie et puis peut faire un document administratif. Hein. Prenez par exemple, je sais pas, comment il s'appelait, Saint John Perse, là, qui était secrétaire général du Quai d'Orsay et qui en même
Oui,
temps était
Claudel, le
poète.
poète.
Ou Claudel. Hein, voilà. Donc, il pouvait certainement faire un rapport qui avoir toutes les caractéristiques du langage administratif, et puis en même temps, est capable de faire de la poésie. Donc, voyez, ces choses-là sont toujours des choses, mettons, de l'ordre de l'hypothèse. Alors, l'autre théorie qui va caractériser plutôt le Nouveau Testament, c'est ce qu'on a appelé la théorie des deux sources. Là, c'est plus les quatre, mais c'est les deux, qui est censée rendre compte de la formation des évangiles et qui sera promue par un autre Allemand qui s'appelle Holtzmann. Alors, pour faire bref, la base, l'origine aurait été l'évangile de Saint-Marc, qui est le plus court. Donc on dit, plus c'est court, plus c'est originel. C'est une des caractéristiques de la philologie. On a plutôt tendance à rajouter qu'à retirer dans un texte. Et donc, Marc est court, donc ça serait et assez schématique. On sait, d'après l'Antiquité, que c'est la mise par écrit de la catéchèse de Pierre, donc catéchèse romaine. Et il y aurait une autre source qu'on appelle Q. Parce que c'est encore de l'allemand, hein, c'est Quelle, voilà. Et à partir de là, Matthieu et Luc auraient été fabriqués en prenant des éléments de Marc et des éléments de Quelle, et donc de la source qui aurait disparu. Et cette époque dit que Saint Jean n'a pas de base historique. C'est plutôt une sorte de méditation spirituelle. Donc, Marc serait le seul à nous donner des précisions authentiques sur Jésus. Alors, à partir de ça a été la vogue des vies de Jésus. On a essayé, à partir de cette critique, en quelque sorte, de fabriquer une vie de Jésus qui soit cohérente. Et qui ne soit pas l'évangile quadriforme. Et alors, vous voyez, on retombe toujours dans des vieilles choses, hein, parce que c'est exactement ce qu'a fait Tatien quand il est passé dans l'hérésie. Vous savez, Tatien, l'apologète du deuxième siècle, qui a fait le diathésaron, en fait, c'était fondre les quatre évangiles en une seule histoire de Jésus. Et là, donc, c'est un peu l'idée. On essaie de faire une histoire de Jésus à partir en essayant d'harmoniser les éléments qui ne sont pas toujours.
C'est pas ce que fait un peu Emmanuel Carême d'Encausse avec son livre Le Royaume, un livre
Ah,
très récent.
peut-être, oui. Je ne
Dans le
sais
même
pas trop.
genre, partant de Marc.
Mais en tout cas, il y en a plein d'autres qui ont fait des choses de ce genre. Par exemple, Monseigneur Weber, voilà, il a fait son.
Il y a eu Daniel Holmes en avant.
Oui, bah, tout le monde a voulu faire un peu une histoire de Jésus. Hein, or, quand même, justement, la tradition apostolique a toujours privilégié le caractère quadriforme et donc pas réductible à l'unité comment dire, des témoignages sur Jésus. Oui, Renan, l'histoire de Jésus. Mais alors en plus, c'est l'histoire de Jésus, alors lui, passé au crible de la critique, et d'une critique réductrice. Hein.
Ça peut être que réducteur,
Oui.
si on essaie de faire. Ça peut être que réducteur vu la personnalité du Christ.
Oui, voilà, exactement. Et c'est un peu la raison pour laquelle, autant par exemple, je sais pas moi, si vous faites une histoire de Wellington, j'imagine que vous prenez différents éléments, puis vous avez quand même une histoire de Wellington qui se tient du début jusqu'à la fin. En disant même, bon, peut-être qu'il a été gentil avec les catholiques à une époque et méchant à une autre. Bon, enfin, je ne sais pas, selon le point de vue. Mais pour Jésus, l'autorité qui est chargée précisément de nous le faire connaître, à l'âge toujours renaclé à faire une histoire de Jésus officielle, puisque le magistère a toujours privilégié les quatre évangiles plutôt que le fait de faire une histoire de Jésus en une fois. Vous voyez, ce qui est fondamental, c'est plus les écritures qui nous parlent de Jésus. Même le catéchisme ne résume pas la vie de Jésus, hein, les catéchismes officiels des conciles. Et vous avez simplement juste un kérigme qui nous parle de sa vie essentiellement sur la mort et la résurrection, hein, avec le symbole des.
Est-ce que dans le film de Gibson, il a donc Catherine Emmerich, c'est une version un peu synoptique qu'elle a, ou c'est une version
Alors, j'avoue que je ne sais pas trop. J'ai pas assez étudié la question. Alors, c'est vrai qu'en plus des vies de Jésus qui sont faites par les savants, vous avez aussi les vies de Jésus de ceux qui ont des révélations ou des communications particulières. Alors, vous avez Anne-Catherine Emmerich qui a quand même été béatifiée. Mais bon, ce qui est quand même Mais alors, il y a aussi la fameuse Maria Valtorta qui en a fait des tomes et des tomes. Oui, c'est ça. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut. Je crois qu'il y a eu un texte du magistère il n'y a pas très longtemps sur la manière de prendre Maria Valtorta en disant qu'il faut prendre avec des pincettes. Voilà. Et que ça remplacera jamais, enfin 15 volumes sur Jésus remplaceront jamais
les évangiles.
Ça remplacera jamais les évangiles,
ben
parce que justement dans les évangiles il y a une dimension qui est liée à l'inspiration et qui est la valeur performative, on pourrait dire quasi sacramentelle, du texte inspiré. Vous voyez, quand même, c'est assez impressionnant que le texte inspiré puisse convertir des gens d'une manière massive, parce que ce texte porte une force, même alors qu'il est extrêmement extrêmement lacunaire, hein, de l'histoire de Jésus. On connaît vaguement le début, ensuite rien pendant 30 ans, et le reste, comme disait un autre exégète allemand du 19e siècle, je crois au début 20e, Wrede. Il dit en gros, qu'est-ce que c'est qu'un évangile ? C'est la passion avec un prologue. Alors, parce que nous, pendant toute l'année liturgique, on a l'évangile par petits bouts, etc. Donc on a l'impression que l'évangile, c'est grand, puis il y a la passion. Mais quand on prend un évangile, on s'aperçoit que... prenez Saint Jean, sur 21 chapitres, vous en avez 12 qui font la vie de Jésus avant... et puis à partir du chapitre 13 on entre dans la passion, hein, c'est le jeudi saint déjà, et les chapitres juste avant c'est les dernières controverses avant l'arrestation. Donc en fait on a essentiellement, comme disait Wrede, on a la passion avec un prologue. Alors après il y a comme je vous disais, à propos des apologètes et puis du 1er siècle, 2e siècle, on a eu tous les écrits apocryphes qui ont essayé de répondre à la curiosité des fidèles qui voulaient savoir ce qui s'était passé entre Jésus retrouvé au temple et les noces de Cana, en gros, hein. Ou alors qu'ils voulaient savoir ce qui s'était passé au temple, ce qui s'était passé entre le retour d'Égypte et le Jésus retrouvé au temple. Alors ça, les gens sont curieux. Hein. On essaie de savoir des choses, mais si justement ce qui nous a été révélé n'a été que ce qui a été consigné dans les Écritures, eh bien c'est ça seulement qui nous suffit. Vous savez, la fameuse parole de Saint Jean de la Croix à l'époque des Alumbrados en Espagne, donc toutes ces âmes privilégiées qui avaient des communications intérieures du Saint-Esprit. Alors, il y avait la réaction pragmatique de Thérèse, c'était de leur mettre un balai dans les mains et ensuite voir ce que ça donnait. Donc si elle balayait pas et qu'elle restait en extase, elle disait, bon, putain, fausse mystique. Et puis Saint Jean de la Croix qui a dit à un moment, il a dit, le Père a dit une seule parole, c'est son verbe, il l'a dit dans un éternel silence et elle résonne pour l'éternité des temps et il n'y a pas d'autre parole à attendre avant la fin des temps. Donc tous ceux qui veulent rajouter des choses à l'écriture, eh bien, en fait, ça n'a pas de sens parce que tout est déjà donné dans ce qui nous a été donné. Et s'il y a eu justement la clôture du canon à une période, eh bien, ça veut dire que Dieu a tout dit dans son verbe. Et que les Écritures, finalement, elles ne sont jamais que le prolongement du verbe. Elles ne sont pas simplement... Et c'est ça qui va être aussi la réponse au criticisme du XIXe siècle, c'est que la Bible n'est pas un texte comme les autres, mais c'est, on pourrait dire... Les espèces, hein, si on prend une vision sacramentelle, on peut dire que ce sont les espèces de la substance qu'est le verbe lui-même. Donc le verbe, d'une certaine manière, va se donner à travers ces espèces que sont les écrits canoniques inspirés. Et c'est ce qui fait donc du coup que la Bible a cette dimension tout à fait particulière, qu'on trouvera pas dans un texte, par exemple, historique. Dans un texte historique, vous n'avez pas l'auteur qui se donne de la même manière. Évidemment, dans tout texte, l'auteur se donne, hein, même quand il veut être le plus... Je me souviens d'un colloque qu'on avait eu sur la mystique parce que dans l'expérience mystique, vous avez évidemment... tous les éléments d'une culture donnée qui y passent d'une manière ou d'une autre. Et nos professeurs de jésuites nous disaient que Ignace s'était exercé à l'objectivité la plus totale dans son journal spirituel, qui est assez réduit, qui est quelques pages, et il se bornait à dire combien de temps il avait pleuré après chaque messe, en gros. C'était la réduction de la mystique au quantitatif, justement pour éviter de la colorer par la subjectivité, vous voyez. Mais en fait, c'est un projet impossible, parce qu'on est toujours dans une culture donnée, dans une époque donnée, etc. Donc, tout ce qu'on vit, on le colorera toujours d'une manière ou d'une autre. Et donc, on n'arrivera jamais à l'objectivité pure. Donc, c'est vrai que tout le projet... de la critique historique au XIXe siècle, d'arriver à de l'historiquement pur, à du critiquement pur, c'est un petit peu une chimère, parce que même quelqu'un qui fait de l'histoire, il fera de l'histoire avec les éléments de sa culture, avec les concepts qui sont les siens dans son époque, donc... En fait, il faut accepter que le texte ne soit pas la chose en soi. Voilà. Ça sera toujours donné sous une forme, donc une forme datée d'une certaine manière. Et pour nous, justement, ce qui est intéressant, c'est que la Bible, sous ses différents textes, sous ses différentes paroles, elle nous renvoie à la parole qui en est la source. Et c'est pour ça que justement, c'est jamais un livre qui nous est donné. Déjà, Tertullien le disait quand il disait aux hérétiques, vous n'avez pas le droit de nous prendre la Bible, vous n'avez pas le droit de la commenter, elle ne vous appartient pas. Parce qu'elle appartient à celui qui en est l'auteur, et celui qui en est l'auteur éminent, c'est Dieu, par son verbe. Et donc, c'est lui qui fait, à travers cette espèce de bibliothèque, complètement disparate, une unité. Donc, est-ce qu'il va légitimer toute l'herméneutique ancienne qui nous paraît parfois tirée par les cheveux, hein, toute la typologie, l'allégorie des pères, mais parce qu'ils avaient bien conscience que sous cette espèce de disparité des textes, il y a un auteur unique. Et précisément... le texte nous est donné dans une tradition, dans une communauté, avec en même temps des gens qui ont été chargés d'en guider l'interprétation. Et d'en guider d'une manière négative, parce que le magistère ne dit pas comment il faut interpréter, mais il dit comment il ne faut pas interpréter. Donc c'est toujours de manière négative. C'est-à-dire on ne dit pas il faut dire comme ça, mais parce qu'on laisse du coup à la tradition, c'est-à-dire au peuple chrétien, le soin d'explorer ce que le texte nous dit. Et il peut nous dire il y a une pluralité de choses à des niveaux différents, etc. Mais par contre, le magistère est là pour nous dire comment on ne peut pas interpréter cet ensemble de textes, ce texte. Vous voyez ? Donc c'est vraiment écriture, tradition et magistère, ce sont trois réalités qui sont indissociables. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le christianisme est une religion du livre. Ça, c'est évident. C'est évident. Et je trouve que le protestantisme est un peu une régression judaïque parce que c'est perdre justement la dimension magistérielle. Parce que y a, dans le protestantisme, vous avez une pluralité d'écoles, effectivement, avec même des érudits qui nous confondent hein, souvent. Comme dans le judaïsme, vous avez une pluralité d'écoles avec des érudits qui nous confondent aussi. Hein. Mais comme disait saint Thomas, une vétula, une petite vieille de Naples, quand il y enseignait, en sait plus que le plus savant des biblistes de qui n'est pas chrétien.
Mais c'est pas l'incarnation, le manque d'incarnation.
Si on peut dire que le verbe s'est incarné dans une chair, mais en tant que parole, il s'est aussi incarné dans beaucoup de paroles dans un et c'est ça, toutes ces paroles sont concaténées alors que c'est complètement disparate entre le cantique des cantiques, des oracles, etc., des textes historiques dont on sait finalement qu'ils sont pas si historiques que ça, etc., etc. Toute cette masse de textes qui ont globalement rien à voir entre eux, eh bien, ils tiennent uniquement parce que le verbe a voulu que se dire à travers eux et pas à travers d'autres. C'est quand même impressionnant, ça, de se dire que aujourd'hui, si on retrouvait, je sais pas moi, une lettre de saint Paul, qu'on arrive par la plus grande, parce qu'on est toujours dans le cadre des faisceaux d'hypothèses. En histoire, on peut jamais dire, même quand c'est signé saint Paul, que vous êtes sûr que c'est saint Paul. Mais qu'est-ce qu'on ferait d'un texte de ce genre? Ben, d'un texte comme ça, si on le retrouvait. Par exemple, il est allé en Espagne ou je ne sais quoi. On pourrait en dire que c'est un pieux texte. On ne pourrait pas dire qu'il est inspiré, puisque le canon est clos depuis la mort du dernier apôtre. Donc, si on retrouve des textes... D'ailleurs, on a retrouvé des textes... regardez l'épître à Diognète, tous ces trucs-là. Un certain nombre de textes de...
Non, pas que.
Il y a des fragments du nouveau. Alors il y a des petits bouts de Saint-Marc, par exemple. Mais même si on trouvait par exemple des logias de Jésus, un petit texte qui dit que Jésus a dit ça, etc. Bon, bah, très bien, on le prendra comme un texte pieux, mais on ne pourrait pas en faire un.
On ne peut pas le rajouter dans le canon.
C'est ça. On pourrait à la limite dire que c'est une variante si on découvre que c'est par exemple, qu'il y a des phrases de Marc ou de je sais pas qui, en disant tiens, c'est une... parce que dans, justement, là encore, je dis parfois que ça ressemble un peu à la théorie quantique, nos écritures, parce que on peut pas dire quel est le texte de saint Luc ou le texte de saint Jean ou le texte de je ne sais quoi, parce qu'on a une pluralité de variantes. Donc on a des familles de manuscrits. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que pour des textes de l'Antiquité, c'est quand même des textes de l'Antiquité, on a des variantes de très peu d'importance, en fait. Mais c'est pour vous dire encore que le fondamentalisme, au sens vraiment bêtement américain du terme, si j'ose dire, hein, bêtement protestant américain du terme, est intenable dans le catholicisme, parce que on a une pluralité de... Chaque texte nous est donné dans une pluralité de variantes. Alors, des variantes souvent très peu importantes, hein, mais qui montrent bien qu'il n'y a pas un texte unique. Alors, en plus, on a parfois, il y a des variantes plus importantes. Par exemple, l'abbé Faure travaillait sur la différence entre le texte occidental et le texte oriental des Actes des Apôtres, où il y a un enjeu aussi. Donc, vous voyez, il y a différents éléments comme ça. Mais enfin, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les communautés ont joué un rôle dans la formation de l'écriture sainte, et que cette écriture sainte est toujours un texte vivant dans la mesure où il est toujours interprété par ceux qui ont été les garants de sa justesse, en un mot. La communauté, l'écriture ne peut être lue qu'en communauté. Et regardez, c'est pour ça que Benoît XVI a tellement insisté sur la liturgie. Quel est le lieu naturel de lecture de l'écriture sainte? Eh bien, c'est la liturgie. C'est là où le peuple chrétien se réunit, pas simplement pour écouter et apprendre des choses, mais il se réunit pour célébrer. C'est dans le cadre de la célébration que l'écriture retentit. Et ça, on en avait déjà la confirmation dans les textes les plus anciens de la patristique. Donc ces textes de la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, les apologies de Justin, la lettre à Diognète, la Didache, tous ces textes-là qui nous disent que justement on lit les mémoires des apôtres, on lit les prophètes, etc., etc. On les lit dans la liturgie. Parce que pour être compris, il faut qu'ils soient lus en commun, sous la direction d'un pasteur, du pasteur. Et le pasteur n'est pas simplement celui qui est plus malin que les autres, qui serait un docteur, par exemple pour les juifs ou pour les protestants, mais il est celui qui a la responsabilité spirituelle de la communauté. Voyez. Donc ce qui veut dire que quand on étudie le texte, le sens littéral, on doit effectivement mettre à un moment ou à un autre, méthodologiquement, entre parenthèses, sa foi, pour se dire on étudie le texte à la manière d'un philologue ou à la manière d'un ceci ou d'un cela, mais sachant que l'objet qu'on étudie n'est pas un objet semblable à un autre texte. C'est un texte de révélation, et un texte de révélation suppose la foi. Hein, et si à un moment ou à un autre, on évacue la foi, il faut toujours le faire d'une manière... On pourrait dire, provisoire. Autrement dit, il peut y avoir de lecture de la Bible que théologique. Hein. Le sens plénier n'est que théologique. Sinon, on a des sens qui sont partiels et qui très vite sont réductibles, enfin deviennent réducteurs. Un auteur qui a pas mal étudié ça, c'est... Antoine Balthazar qui soulignait dans son esthétique théologique que il y a une figure qui émane des Écritures, que cette figure est celle du Christ, qui est la figure d'un être humain, mais qu'elle est justement irréductible à tous les canons, en quelque sorte, qu'on pourrait lui imposer. Il n'est pas seulement libérateur politique, il n'est pas seulement prophète, il n'est pas seulement ceci ou cela. En fait, à chaque fois qu'on essaie de lui mettre un vêtement, le vêtement est trop petit, quoi, ne lui correspond pas. Et on le voit très bien dans la logique du Nouveau Testament, et surtout Saint Jean nous le montre. À chaque fois, dans les dialogues, dans les controverses, avec les juifs, justement tous les textes qu'on a à la messe là en ce moment, pendant le carême et surtout la semaine de la Passion, eh bien, les juifs essayent de faire rentrer Jésus dans du déjà connu, c'est-à-dire pour essayer de le placer dans une case, quoi, et puis parce que c'est plus, c'est moins dérangeant hein, de pouvoir placer quelqu'un dans du déjà connu et puis dans, voilà. Mais en fait, il fait éclater les cases et donc il est irréductible à tous les comment dire toutes les images dans lesquelles on voudrait le ranger. Et ça, c'est vrai pour les Juifs du temps de Jésus. D'ailleurs, ce qui va pousser un certain nombre à le reconnaître vraiment comme celui qui est justement le. Je prenais l'image de du Panthéon, c'est-à-dire en fait qui l'Ancien Testament qui ouvre sur quelque chose et c'est justement lui qui va en quelque sorte correspondre à cette ouverture. Hein. Et en même temps. Il est capable aussi de faire éclater nos représentations, nous modernes, enfin nos représentations d'héritiers des païens, en quelque sorte. Oui, il est bien Dieu, mais quel Dieu ? Oui, il est bien le roi de l'univers, mais quel roi ? Oui, il est bien le Messie, mais quel Messie ? Bon, etc., etc. Vous voyez, il est donc sa manière d'agir. Est tel qu'il ne peut pas être réduit à un personnage on pourrait dire que l'histoire nous a déjà présenté.
C'est un peu le Christ du tympan de Béziers qui devient très mystérieux quand on regarde vers le haut.
Ah, c'est
quand
possible,
il y a un mouvement
oui.
très, très dense au départ et quand on regarde de plus en plus haut, on sent qu'il nous échappe, enfin qu'on ne peut pas le mettre dans une cave.
Oui, oui, et je pense que c'est ce que l'iconographie byzantine ou la sculpture romane ont essayé de montrer, c'est-à-dire à travers parfois des invraisemblances, justement une transcendance, c'est-à-dire le fait qu'il ne peut pas être réduit au canon du purement humain. Et ça, il faut bien reconnaître que le baroque, moi j'aime bien le baroque, mais bon, mais justement le baroque sera obligé de trouver d'autres moyens pour arriver à manifester la transcendance. C'est-à-dire, si on nous présente Jésus comme un beau jeune homme, on le mettra au milieu de nuages avec des angelots autour, enfin plein de trucs qui vont montrer qu'il est quand même, qu'il n'est pas simplement un être humain. Mais vous voyez, il y a un certain nombre de choses comme ça. Parce qu'à chaque fois, l'iconographie va essayer de maintenir la transcendance. Alors, soit elle prend des canons trop humain et elle va être obligée de rajouter des trucs pour justement bien montrer qu'on n'est pas, faut pas être dupe de la représentation ou alors c'est dans la représentation même qu'on va, vous savez, la fameuse inversion de la perspective dans les icônes, la suppression du fond. L'allongement des personnages. Parce qu'on pourrait se dire, après tout, finalement, ils étaient peut-être maladroits. Mais non, en fait, ils n'étaient pas maladroits, c'était intentionnel. Justement, tout le grand débat de l'iconoclasme nous l'a rappelé. Si c'est trop ressemblant, ça peut nous faire croire, ça efface la transcendance. Si c'est trop dissemblant, si c'est trop dissemblant, c'est plus humain non plus, donc ça respecte plus vraiment l'incarnation. Alors c'est vrai qu'avec l'art contemporain, l'art sacré contemporain, on est un peu dans la situation où c'est plus très baroque. Hein, vous savez, le musée, oui, la partie contemporaine des musées du Vatican, là c'est assez particulier. Hein, c'est...
Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre le magistère et la tradition ?
Alors, le magistère, il est judicatif. Le magistère juge de l'idéonéité d'une idée à la révélation. Et en fait, c'est la tradition qui porte qui fait tout le travail d'investigation des richesses de la révélation. Alors, sous plusieurs formes. Sous la forme intellectuelle de la théologie, par exemple, sous la forme mystique de la spiritualité, etc. Et donc, c'est chaque génération, chaque culture qui trouve dans l'écriture, dans la méditation de l'écriture, des richesses nouvelles. Et là, parfois, certaines richesses sont authentiques, et il y en a d'autres qui sont en toc. Et celui qui a la charge de juger, c'est justement le magister. Oui. Comme à l'origine, d'une certaine manière, il a jugé ce qui était inspiré et qui ne l'était pas avec la formation du canon. Et vous voyez que les trois... alors, c'est pour ça, moi, je me souviens que Garrigue, le père Garrigue, là, un dominicain, nous disait qu'au 19e siècle, il y a une sorte de logorée un petit peu magistérielle. Du coup, on a perdu un peu le sens du fait que le magistère, finalement, doit s'exprimer en termes qui relèvent du judiciaire, en quelque sorte.
On n'est pas fondé à croire.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pas au magistère d'enseigner au sens de faire de la doctrine, mais c'est plutôt à lui de juger les doctrines. Voyez. Alors, on a eu. Alors, c'est vrai que le 19e siècle, c'était le 19e et puis le 20e. Faut bien. Il y a eu encyclique sur encyclique, document sur document, etc., etc. Et d'une certaine manière, ça. Ça a un peu confisqué le rôle des théologiens, parce que finalement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, XIXe siècle, même encore aujourd'hui, il y a différentes écoles théologiques qui sont pas toujours là encore. Il y a des variantes dans la théologie. Il y a pas une théologie.
Même aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de textes magistériels qui sortent?
Alors, le rôle normalement que peut faire le magistère, c'est d'actualiser évidemment l'enseignement, mais
excusez-moi, est-ce que c'est pas dû justement à cette inflation d'interprétation et d'exégèse critique des théologiens?
Si, probablement, si. Alors, du coup, il y a une école, parce qu'autrefois, l'école romaine. C'était l'école des professeurs des facultés romaines. Avec maintenant, on a l'impression que l'école romaine, c'est plus que les textes du Vatican. Alors, vous allez me dire, d'un autre côté, ils sont faits par les professeurs des universités romaines. Il ne faut pas se mourir. Ça demeure encore l'école romaine. Mais avec un sceau qui est le sceau magistériel. Mais encore que, vous savez, pour faire des grands textes... c'est signé des papes, mais c'est souvent fabriqué par des... Par exemple, dans le livre que je prépare sur Léonard, Benoît XVI nous a donné une petite préface, et dans laquelle il dit que comment il a rencontré Léonard, c'était au moment où il devait faire foi et raison. Donc, comme il était à la Commission théologique internationale, du coup, il avait commencé à travailler sur cette encyclique. Et Foi et raison ou l'autre là, Fides et ratio, oui, c'est celle-là, ou alors une autre, je ne sais plus. Oui, non, peut-être pas, ça peut être Fides et ratio. Et au moment où le travail était engagé, Jean-Paul II a nommé Léonard comme évêque, donc il n'était plus à la Commission théologique internationale, donc il a interrompu sa collaboration. Mais sinon, moi, j'ai remarqué des phrases typiques de Léonard dans d'autres encycliques. Donc, on voit bien qu'il y a derrière la plume d'un certain nombre de théologiens.
C'est normal,
oui. Oh non, on passe.
Oui,